Europe 1, il est 6h.
C'était plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi, on y a le droit ici.
Plus de 20 000 personnes hier à Paris, mais aussi Lille, Marseille, Lyon, bravant l'interdiction de rassemblement, elles ont manifesté contre les violences policières. À l'appel de la famille d'Adama Traoré, mort il y a 4 ans après une interpellation, ses proches font un parallèle avec le décès de George Floyd. Les États-Unis où les manifestations continuent, à Minneapolis, calme de retour, mais certains habitants et commerçants subissent durement les conséquences des récentes émeutes. Nous serons sur place. L'Italie rouvre ses frontières et les Français sont attendus cet été par les professionnels du tourisme.
J'espère qu'ils vont venir. Tous les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons fermer.
Nous serons à Vintimille, première étape d'un tour de l'Europe du Sud post-confinement, série de reportages qu'on vous propose. Dans ce journal, ces petits patrons qui, ils le savent déjà, ne partiront pas en vacances. L'été prochain, la crise économique frappe trop fort. Juillet-août, ce sera au travail pour renflouer.
Là, on a actuellement du travail jusqu'à fin août pour les chantiers qu'on rattrape et quelques nouveaux qui sont arrivés. On est vraiment en branle-bas de combat là, pour étudier tout ce qui s'offre à nous. Quoi.
Et puis, de la musique douce, pas de bagarre, de zombies à fuir, ce sont les jeux vidéo bienveillants, carton du confinement, et ça se développe. Votre invité à 6h40, Mathieu.
Témoignage en direct d'un Français de Minneapolis, Maxime Lefebvre, membre du staff de l'équipe NBA des Timberwolves de Minnesota, à 6h40, en direct des États-Unis sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
La vague de colère partie de Minneapolis après le décès de George Floyd gagne la France. 20 000 personnes rassemblées hier soir devant le tribunal de Paris contre les violences policières. Manifestation pourtant interdite par les autorités en plein état d'urgence sanitaire.
Rassemblement à l'appel de la famille d'Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans décédé en juillet 2016 après une interpellation violente. Ses proches ont révélé hier une contre-expertise médicale. Le plaquage ventral qu'aurait subi le jeune homme ce soir-là serait à l'origine de son décès.
Parallèle avec ce que vivent en ce moment les Américains, hier à Paris, début de rassemblement dans le calme, mais des incidents en fin de soirée, Théo Manval.
Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd aux États-Unis, on se bat pour Adama.
Sur le parvis du tribunal, les pancartes justice pour Adama côtoient le slogan américain Black Lives Matter. Assa Traoré fait le parallèle entre la mort de son frère en 2016 et celle de George Floyd la semaine dernière. Et si la foule est aussi dense, disent Boubacar et Mustapha, c'est qu'on est finalement nombreux à avoir ressenti la même chose face aux images de Minneapolis en boucle sur nos télévisions.
C'était plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi on y a le droit ici.
Il est mort de la même manière, ils ont dit les mêmes mots avant de mourir. Je n'arrive plus à respirer.
Dans la foule, beaucoup de jeunes, le spectre partout du racisme.
On nous a jamais acceptés, on nous tolère, même les adultes, on a peur de notre police.
Joey Starr, Abdel Malik ou Adèle Haenel sont là. En soutien à ces cris de colère pacifiques, mais à l'heure de la dispersion, entrent en scène les groupes de casseurs.
Ils ont brûlé des poubelles. Je me suis dit que jusqu'au bout, on allait faire quelque chose pacifiquement, mais au final, il y a toujours des personnes pour salir ce qu'on a fait juste avant.
Et rendre presque inaudible au milieu des débris d'abribus le message originel du refus de la violence.
Sur Twitter, Christophe Castaner condamne une violence qui, je cite, n'a pas sa place en démocratie. D'autres manifestations sans débordement hier à Lille, Marseille ou encore Lyon.
Des rassemblements qui se poursuivent aux États-Unis. Les manifestants bravent souvent les couvre-feux. Ils étaient des milliers à Houston, Manhattan, Washington aussi, où les abords de la Maison-Blanche sont bloqués par des barrières.
À Minneapolis, point de départ de contestation, certaines rues sont dévastées après plusieurs nuits de manifestations parfois violentes.
Le quotidien de nombreux commerçants et habitants est bouleversé. Dans un climat déjà alourdi par, évidemment, l'épidémie de Covid-19, le dernier recours est bien souvent la banque alimentaire. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Minneapolis, Xavier.
Le terrain vague à côté de la bretelle d'autoroute est désormais le seul endroit du quartier où l'on peut trouver à manger. Des dizaines de bénévoles s'activent à trier les donations tandis que les habitants se pressent autour des tentes de distribution. On vit dans un désert alimentaire ici, explique Paul, venu remplir ses sacs de couches, de pâtes et de céréales pour ses 5 enfants. Tous les magasins ont été pillés, vandalisés, aucun commerçant ne veut ouvrir, se lamente Linda derrière sa visière de protection. Je comprends que les gens veuillent se faire entendre, mais casser son propre quartier, ça me brise le cœur, dit cette femme âgée qui raconte ses difficultés pour se déplacer. Ici, c'était déjà un quartier déshérité et touché de plein fouet en plus par la crise économique, explique Shay, l'organisatrice de cette banque alimentaire improvisée. Dan, par exemple, raconte qu'il a perdu son boulot dans un magasin d'articles de sport à cause de la pandémie. Avec le déconfinement, il pensait retrouver son travail, mais ses espoirs sont partis en fumée. Le magasin a été brûlé, dit-il. Il ne rouvrira jamais. Fin de la distribution pour aujourd'hui, annonce Shay. Elle doit reprendre des forces, dit-elle, car sa banque alimentaire de fortune risque de rester ouverte encore longtemps. Minneapolis, Xavier Yvon, Europe 1.
Et hier soir, la situation a été calme dans cette ville de Minneapolis. Les États-Unis, toujours fortement touchés par le coronavirus. Plus de 106 000 décès désormais. Le cap des 30 000 morts est par ailleurs franchi au Brésil.
Europe 1, il est 6h06.
Touristes européens, venez en Italie. L'appel des professionnels transalpins du tourisme. Il faut sauver la saison touristique alors. Le pays, l'un des plus touchés par l'épidémie, rouvre aujourd'hui ses frontières aux Européens. À noter que pour les Français, y voyager est soumis à conditions.
L'Italie, première étape d'un voyage que vous propose Europe 1 à partir d'aujourd'hui. Des passages par la Grèce, les Balkans, la côte adriatique pour répondre à cette question. Comment l'Europe du Sud vit-elle cette sortie du confinement ? Ce matin, Vintimille à la frontière française.
Sur place, on n'a qu'une envie, que les touristes viennent. Jean-Sébastien Soldaini est l'envoyé spécial d'Europe 1.
Susanna a beau tenir sa plage au carré depuis 2 semaines, les transats restent désespérément vides, les clients italiens sont rares, alors c'est entre angoisse et impatience qu'elle attend ce 3 juin.
J'espère qu'ils vont venir toutes les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. C'est comme chez vous qu'à Menton, il n'y a que des Italiennes, ils vivent pour les Italiens, nous on vit pour les Français. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons fermer. Parce que sinon, tu spares.
Sinon, on peut se tirer une balle dans la tête, reprend-elle en italien, geste à l'appui. Comme beaucoup, elle attend aussi la réouverture du marché de Vintimille, le plus populaire de la Riviera. Fabrizio Sorgi représente les commerçants ambulants et avec son collègue, il considère les touristes français comme leur pain sacré.
Le marché du vendredi était un des piliers de ma vie. 70% de mon revenu vient de ce marché. Pour moi, c'est la vie.
Le retour des touristes, c'est une renaissance.
Car si on perd la saison, on perd toute une année de travail.
Le marché ne sera rouvert que dans 12 jours, le temps de mettre en place les mesures sanitaires. En attendant, ils veulent accueillir les touristes du mieux qu'ils le peuvent, comme cette restauratrice qui diffuse la Marseillaise dans son établissement. Une façon de briser le silence des lieux ou bien de lancer un appel à la rescousse. Vintimille, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Ce reportage... Enfin,
imaginez un instant que vous êtes en vacances en Italie et que vous entendez la Marseillaise sur la plage. Ça peut vous surprendre.
Hein. Bah, ça peut surprendre.
Ça peut attirer, cela dit aussi.
Et c'est exactement ce que j'allais dire. Ce reportage et ce avenir de notre série à retrouver sur europe1.fr.
Les restaurateurs français, ça y est, ils respirent un petit peu mieux, notamment en zone verte. Ils ont pu rouvrir complètement hier. C'était aussi le retour en classe pour certains collégiens et lycéens.
Eux ont pour salle de classe un open space. 9 enfants brestois, du CE1 à la 3e. Ils font l'école au travail de maman et papa. Un patron propose en effet à ses salariés parents de faire classe à leurs enfants dans les locaux de l'entreprise.
Bonjour Pierre Gadonex.
Oui, bonjour.
Vous êtes le PDG d'Hermétique, entreprise spécialisée dans le chauffage à granulés, située à Brest, une entreprise de 15 salariés. Pourquoi avez-vous décidé de créer cette école dans vos locaux ? Il le fallait absolument pour que vos salariés puissent revenir au travail ?
Oui, bien évidemment, 15 jours avant le déconfinement, on a eu les premières lignes du protocole sanitaire. Au niveau des suivis pédagogiques, on a très vite compris que aller faire l'école 2 jours par semaine allait devenir très compliqué, soit pour les parents, mais même en tant que chef d'entreprise pour assurer la production de l'entreprise.
Alors concrètement, racontez-nous, décrivez-nous comment ça se passe cette école à l'entreprise.
On a recruté donc une enseignante hein, qui a de l'expérience, qui est anciennement enseignante dans l'éducation nationale. Donc on reçoit sous forme de Padlet ou de Classroom le programme qui est dispensé par les élèves, les professeurs titulaires de chaque élève. Et chaque matin, on fait la récupération de ces données-là et l'enseignante dispense les cours à chaque élève.
Et combien ça vous coûte ? Combien ça coûte à l'entreprise ça ?
Bon, c'est un budget sur les 2 mois quand on monte le salaire de l'enseignant plus les frais repas. Et puis quelques investissements pour la classe, on est sur 7000 euros.
Alors l'enseignante, elle suit les programmes officiels. Vous êtes renseigné, je crois, auprès de l'Académie de Rennes notamment.
Oui, on a pris contact avec l'Académie de Rennes. Au début, c'était pour avoir les listes d'enseignants qui étaient éventuellement disponibles. Et après, l'Académie de Rennes a pris l'initiative positivement et nous a suivis pour nous... nous proposer de, dans les meilleures conditions de, d'accueillir les enfants.
Et les enfants n'ont pas de devoir le soir. Hein. J'ai vu cette précision à noter toutefois. Pierre Gadonnex, merci beaucoup. PDG d'Hermétique à Brest, vous avez créé donc cette école dans votre entreprise. Merci d'avoir été ce matin en direct l'invité du journal de 6 heures d'Europe 1.
Europe 1.
Dans un tout petit instant, la suite du journal sur Europe 1 et ces Français touchés au portefeuille par la crise du coronavirus qui savent déjà qu'ils ne partiront pas en vacances cet été.
Et puis des jeux vidéo bienveillants. Carton du confinement, on respirera un peu. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h12, la suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Offrir des congés aux soignants sous forme de chèques vacances, proposition de loi votée hier soir par les députés avant examen au Sénat.
Eux ont déjà fait une croix sur leurs vacances d'été. Ces artisans qui n'ont pas pu travailler pendant les deux mois de confinement, ils reprennent doucement aujourd'hui, mais se mettre aux normes sanitaires, c'est souvent coûteux.
Et pour remonter la pente, pas le choix. Pour ces chefs d'entreprise contactés par Romain Oquet, il va falloir travailler tout l'été.
15 jours de vacances ou 3 semaines de vacances en moins, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut sauver l'entreprise quoi qu'il arrive, quoi.
Tant pis pour les vacances en famille, le chef d'entreprise sera sur les chantiers tout l'été. Avec le confinement, Gaël a perdu 25% de son chiffre d'affaires annuel.
Là, on a actuellement du travail jusqu'à fin août, entre les chantiers qu'on rattrape et quelques nouveaux qui sont arrivés. L'été va être crucial et surtout, là, on est vraiment en branle-bas de combat là, pour étudier tout ce qui s'offre à nous, quoi.
Le défi, c'est aussi d'avoir des bras pour répondre à cette demande. Impossible de prendre des vacances cet été. Certains artisans ont dû négocier avec leurs salariés. Chez Martine, esthéticienne, ça s'est fait naturellement.
Les salariés se sont proposés d'elles-mêmes de différer leurs vacances. Elles ont envie de sauver leur emploi. C'est une façon de participer, on va dire, à l'effort que moi j'ai fait en les mettant en activité partielle. Eh bien, elles répondent à ça en répondant présente si j'en ai besoin.
Des employés qui devront aussi être disponibles après l'été, en septembre, pour l'affluence de la rentrée. Les congés, ce sera cet hiver, explique Martine, une fois qu'on aura remonté la pente.
Et vous entendez hein, au micro de Romain Oquet ces artisans qui vont se priver de vacances parce qu'il faut rattraper la période du confinement. En France, il y a aussi ce débat qui a été relancé sur le temps de travail, par exemple, dépasser les 35 heures. Vous avez peut-être entendu, vous les réentendrez ce matin, le chantage des dirigeants de Ryanair auprès de leur personnel. Baissez vos salaires ou on devra licencier. L'après-Covid, la situation de crise économique qui se profile, est-ce que vous êtes prêts à faire ce genre d'effort? Ce sera notre débat à 8h30. On va aussi poser la question de ce qui est légal. Je vous attends au 3921 et sur le hashtag Europe 1, n'hésitez pas.
Allez Mathieu, ici on se relaxait pour finir. Vous n'imaginez peut-être pas que cette musique est celle d'un jeu vidéo. Oui, d'un jeu vidéo relaxant, bienveillant. Et les consoles,
c'est musique d'attente. Ne quittez pas. Un opérateur va vous.
Non, les consoles, c'est pas seulement tirer sur des aliens ou jouer à la guerre, Mathieu. C'est peut-être la douceur.
C'est aussi appeler l'administration française.
C'est peut-être la douceur et l'émotion. Clément Le Saffre nous le raconte. Le créneau a cartonné pendant le confinement.
Cette musique, c'est celle d'Animal Crossing. Elle a rythmé les journées confinées de 13 millions de joueurs. Un succès fou pour ce jeu, aussi joyeux qu'apaisant, qui propose simplement de faire vivre une communauté sur une île déserte. Pas d'ennemis, pas de chrono et pas de stress. Une formule magique qui fait des émules. Plusieurs studios se sont réunis sous la bannière des Wholesome Games. Ils ont présenté 50 nouveaux jeux bienveillants, comme Kind Words au concept évocateur. Dans un environnement douillet avec une musique relaxante, il faut simplement écrire des mots gentils à envoyer au hasard à d'autres joueurs.
C'est vrai que
de l'émotion plutôt que de l'action XXL, c'est aussi le concept de The Spirit and the Mouse où l'on incarne façon ratatouille une souris qui aide les humains à aller mieux. Animaux toujours, Calico, dans lequel on doit gérer un bar à chat, promet également une expérience pleine de douceur. Souvent conçus avec des moyens limités, parfois même en financement participatif, ce ne sont pas les jeux les plus beaux ni même les plus impressionnants, mais ce sont des jeux qui font du bien.
Gérer un bar à chat. On a combien de vies quand on gère un bar à chat dans le jeu vidéo ?
Moi, ça me stresserait de gérer un bar à chat.
L'angoisse de Jérôme Lacroix ce matin. Merci beaucoup, vous avez certainement joué à ces jeux. Animal Crossing, hein, beaucoup, on en avait parlé déjà, merci. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h. À 6h30, nous serons avec François Geffrier.
Europe 1.